Donc, les préambules ont déjà eu lieu, donc je vais entrer directement dans le vif du sujet. Donc, je vais vous parler, comme le titre l'indique, de la justification, et plus principalement, je vais m'intéresser au genre de normativité qui caractérise cette propriété qu'est la justification. Donc, très rapidement, le plan. Donc, l'objectif, comme je viens de vous le dire, c'est d'explorer la normativité de la justification, et je vais vous présenter rapidement ce qui me semble être deux conception de la normalité de la justification que j'ai baptisée optionnelle et non optionnelle. Ensuite, j'essaierai de vous montrer pourquoi en fait elles consistent vraiment en des conceptions qui sont incompatibles et je vous expliquerai très brièvement pourquoi au fond la conception non optionnelle est à mon avis meilleure que la conception optionnelle. Donc, tout d'abord, une première chose sur laquelle j'aimerais insister, c'est qu'il est courant de dire que la justification est une propriété normative. C'est une affirmation que vous trouverez dans de nombreux articles de philosophie, de la part des épistémologues, mais également de la part des philosophes, des éthiciens ou des philosophes moraux. En tant que telle, au fond, une entité, quand je dis une entité, j'entends par là une croyance ou une action, donc une croyance ou une action justifiée en tant que telle est caractérisée par deux propriétés. Tout d'abord, une action justifiée, évidemment, ou une croyance justifiée, évidemment, caractérisée par la propriété d'être justifiée, mais elle est également, qui est la propriété normative, mais elle est également caractérisée par une autre propriété, que l'on appelle parfois propriété naturelle, qui est la propriété en vertu de laquelle la croyance ou l'action est justifiée. C'est des niveaux qu'on peut considérer comme étant des niveaux métaphysiques ou pas, mais je ne tiens pas à entrer dans ce type de détails-là, mais ces deux niveaux-là sont des niveaux que toute propriété normative possède. Typiquement, prenons une autre propriété normative, la propriété de dégoûtant. Si vous dites ce plat est dégoûtant, vous direz qu'il est dégoûtant en vertu de quelque chose, et le quelque chose en question consistera en une propriété naturelle. Typiquement, ce plat est dégoûtant en vertu de sa viscosité, par exemple. Et cela est vrai de la justification en tant que propriété normative. Donc, une fois qu'on admet ça, une fois qu'on reconnaît ça, on réalise que la question que les épistémologues posent très souvent, qu'est-ce qu'une croyance justifiée ? Cette question-ci peut au fond être interprétée de deux manières, selon que l'on focalise notre attention sur le niveau supérieur ou sur le niveau inférieur, si vous voulez. Vous pouvez vous demander, qu'est-ce que la propriété de la justification est ? Ou vous pouvez vous demander quelles sont les propriétés en vertu desquelles une entité est justifiée. Quand vous demandez qu'est-ce qu'une croyance justifiée, vous pouvez être en train de vous demander qu'est-ce que la justification elle-même ou quelles sont les propriétés en vertu desquelles les croyances sont justifiées. Et au fond, ce pourquoi j'insiste sur ces deux interprétations, c'est que dans cet exposé, je vais m'intéresser exclusivement, au fond, à la question de niveau supérieur. La question primaire de la justification, comme je l'ai appelée, et pas la question fondamentale ou de base de la justification, celle qui porte sur les fondements de la justification. Et plus précisément, l'objectif de cet exposé, c'est s'intéresser à la justification elle-même et, comme je vous l'ai indiqué dès le début, à sa normativité. Nous nous demandons aujourd'hui, au fond, quel est le type de normativité qui caractérise la justification. Avant de vous présenter une réponse que l'on peut donner à cette question, j'aimerais vous présenter les différents candidats. Quels sont finalement, à quel type de normativité on peut identifier la justification ? Quelles sont les réponses plausibles, si vous voulez, à cette question ? Il est courant d'identifier un certain nombre de types de concepts normatifs. Je vous en présente ici trois principaux. Tout d'abord, il y a le type déontique. L'ensemble des concepts normatifs de type déontique. Et c'est cet ensemble-là peut être subdivisé en deux sous-ensembles. Le premier, en fait, rassemble tous les concepts qui se trouvent traditionnellement sur le carré des oppositions déontiques, comme typiquement l'obligatoire, le permis, l'interdit, le non-obligatoire. Mais on ajoute en général à cet ensemble l'optionnel, qui est en fait un concept, l'optionnel c'est simplement ce qui est ni interdit ni obligatoire. Et beaucoup d'auteurs précisent que dans l'ensemble des concepts déontiques, en plus de l'obligatoire, l'interdit, etc., il y a également le concept de right and wrong. C'est très difficile de donner une traduction qui ne soit pas ambiguë du terme right en anglais. Je vais ici utiliser le terme correct. Donc, quand je dirai correct, il faudra entendre right en anglais. Et incorrect, il faudra entendre wrong. Donc, c'est le concept de correction et de non-correction, si vous voulez. Donc, ça, c'est le premier ensemble de concepts normatifs. Le deuxième ensemble est constitué par les concepts axiologiques. C'est une catégorie beaucoup plus vaste. À l'intérieur de cette catégorie, il y a le concept de bon et de mauvais, et puis des concepts plus épais, comme on le dit, des concepts comme le dégoûtant, le joli, le beau, l'élégant, etc. Ce sont tous les concepts, en fait, qui réfèrent à des valeurs d'un certain type. Et un troisième type célèbre de concepts normatifs sont les concepts que j'ai baptisés arétiques, c'est-à-dire les concepts qui font référence à des vertus ou des vices, des types de vertus ou de vices, comme évidemment, de manière générale, le vertueux ou le vicieux, mais aussi, par exemple, des concepts plus spécifiques, comme le sage ou le courageux. Donc ça, au fond, quand on s'interroge, mais au fond, quelle est la normativité et la justification ? Les réponses envisageables, il y a au moins ces trois. Il y en a peut-être d'autres, mais il y a au moins ces trois. Et ce que je voudrais vous montrer, c'est qu'au fond, cette question, la question primaire de la justification, on y a répondu d'une manière principale. J'ai oublié de vous dire au début, c'est que ce n'est pas une question. Les épistémologues se sont principalement intéressés, si vous voulez, au niveau inférieur. Ils se sont principalement demandé ce en vertu de quoi une croyance est justifiée. Mais la question de niveau supérieur a été moins traitée. Mais parmi les philosophes contemporains qui ont traité de cette question de niveau supérieur, il y a William Alston. Et William Alston a, de fait, également répondu à la question « Quelle est la normativité de la justification ?» Et voilà la réponse qu'il donne. Je lis la citation en question. It is natural to set out a deontological concept on the model of the justification of behavior. To say that my expenditures on the trip were justified is not to say that I was obliged to make those expenditures, for instance for taxis, but only that it was all right for me to do so, that in doing so I was not in violation of any relevant rules or regulations. Similarly, to say that the belief was deontologically justified is not to say that the subject was obligated to believe this, but only that he was permitted to do so, that believing this did not involve any violation of relevant obligations. Donc si on reformule rapidement l'idée d'Alston, ce que nous dit Alston, repensez maintenant aux trois catégories de concepts normatifs que je vous ai présentés préalables, au fond ce que dit Alston, c'est que la normativité de la justification n'est pas d'un type axiologique, n'appartient pas au même type de concept que les concepts qui font référence à des valeurs, il nous dit la justification est un concept déontique. Donc on obtient une première réponse, elle se situe dans cette première catégorie de concepts normatifs, et il précise qu'une entité, une action, une croyance justifiée n'est ni obligatoire ni interdite, il le dit dans la citation. Donc au fond, ce que pense Alston à propos de la normativité de la justification, c'est que la justification est caractérisée par une normativité de type optionnel. Être justifié pour une action ou une croyance, c'est être optionnel. C'est n'être ni obligatoire, ni interdit. Et comment est-ce que Alston défend cette idée, dans cette citation que je vous ai lue ? Il le défend en s'appuyant sur le langage ordinaire. C'est ce que je vais appeler, il le défend en s'appuyant sur l'intuition sémantique. Je vais y faire référence plusieurs fois, quand je dirai intuition sémantique, je ferai appel à cet argument que donne Alston, qui consiste à dire, quand on dit d'une action, par exemple, la rupture des relations diplomatiques, qu'elle est justifiée, ce que l'on veut dire, ce n'est pas qu'il est obligatoire de rompre les relations diplomatiques, ce que l'on veut dire, c'est qu'il est permis de rompre les relations diplomatiques. Ça semble extrêmement correct. Il est très difficile d'aller contre cette intuition sémantique. Il est évident que quand on nous dit d'une chose qu'elle est justifiée, on ne dit pas qu'elle est obligatoire. Mais qu'elle est permise. Vous allez comprendre que, même si je pense que l'intuition sémantique est correcte, elle ne me permet pas de défendre, en fait, à mon avis, la conception optionnelle. Mais ça, je vais y arriver à la fin de l'exposé. Mais souvenez-vous que cet argument d'Alston, l'argument qui soutient la conception optionnelle d'Alston, c'est un argument du type intuition sémantique. Il s'appuie sur le langage ordinaire pour comprendre ce qu'est la normativité de la justification. Je passe parce que je n'ai pas énormément de temps, mais ce que je voulais vous dire rapidement là, c'était que d'autres auteurs, à part Alston, ont défendu des conceptions du type optionnel de la normativité de la justification, comme Carl Ginet. Donc ça, c'était pour la première conception de la normativité de la justification, qui est celle défendue explicitement par Alston. La deuxième conception, celle que je vais baptiser la conception non optionnelle, en fait, le désavantage de ne jamais vraiment apparaître de manière explicite. C'est-à-dire que les auteurs qui, à mon avis, défendent la conception non optionnelle, ne s'intéressent pas à la question telle quelle, qu'est-ce que la normalité de la justification ? On réalise qu'ils défendent qu'ils ont une certaine vision de cette normativité en examinant un certain nombre d'autres thèses. Ce n'est pas une réponse aussi explicite que celle d'Alston à la question qui m'intéresse. Et plus précisément, cette conception non optionnelle, elle apparaît dans une des réponses que plusieurs externalistes, on y revient, donnent à ce que l'on appelle le problème du nouveau malin génie. Alors, qu'est-ce que le problème du nouveau malin génie ? Très brièvement, il y a une littérature considérable sur ce sujet en ce moment. Le problème du nouveau malin génie, en fait, démarre avec une expérience de pensée. C'est la suivante. Imaginez deux paires épistémiques, c'est-à-dire deux individus qui, du point de vue de leurs états mentaux non factifs, sont absolument identiques. Ils ont l'impression de percevoir les mêmes choses, ils ont l'impression de se souvenir des mêmes choses, ils ont l'impression de faire les mêmes, que la validité des inférences qu'ils font sont les mêmes. Tous leurs états mentaux non factifs sont exactement identiques. Mais ces deux individus sont plongés dans des scénarios qui sont différents. Un est plongé dans un scénario bon et l'autre est plongé dans un scénario mauvais. Dans le bon scénario, l'individu en question a un certain nombre d'apparences, perceptuelles, mémorielles, etc., qui effectivement résultent de ses compétences cognitives fiables. Et en tant que telles, la plupart des croyances qui sont basées sur les apparences en question sont vraies. Ça, c'est pour le bon scénario. Dans le mauvais scénario, l'individu a exactement les mêmes apparences, le monde lui apparaît exactement de la même manière, sauf que ses apparences ne sont pas induites par ses compétences cognitives, par ses facultés, elles sont induites par un malin génie. Comment est-ce qu'on va évaluer la justification des croyances des uns et des autres ? Le point important, c'est de voir qu'à ce moment-là, le jugement des externalistes et des internalistes va se diviser. Les externalistes vont dire que seul l'individu, dans le bon cas, a des croyances justifiées, parce que c'est seulement lui, souvenez-vous de ce que j'ai dit dans le commentaire qui portait sur la contribution de Paul, c'est seulement dans ce cas-là, dans le bon scénario, que les choses dans le monde se comportent de manière correcte. Donc si la justification est externaliste, c'est seulement dans ce bon cas que les croyances seront justifiées. Ça, c'est ce que dira l'externaliste. Mais l'internaliste, lui, dira « Quelle injustice ! Ces deux individus ont exactement la même vision du monde, les apparences sont exactement les mêmes. Donc comment osez-vous dire que celui qui est dans le mauvais cas n'est pas justifié à croire ce qu'il croit, que seul celui qui est dans le bon cas est justifié ? Ils sont tous les deux justifiés exactement de la même manière compte tenu du fait qu'ils ont exactement les mêmes états mentaux. Et comme l'intuition la plus forte est celle de dire qu'en effet, ils sont justifiés de la même manière, on n'a pas l'impression, intuitivement, disons, qu'il devrait y avoir une différence. Le nouveau problème du malin génie, avec cette expérience de pensée, cette conclusion, est considéré comme une objection à l'externalisme. Au fond, les internalistes disent aux externalistes, vous arrivez à un résultat qui est le suivant, seules les croyances de l'individu dans le bon cas sont justifiées, ce résultat est incompatible avec une intuition qui est beaucoup trop forte, donc votre conception, l'externalisme, est incorrecte. L'externaliste, c'est pas, évidemment, il considère en général, si vous lisez les articles même contemporains, encore récemment j'ai lu un article de Little John qui, je crois, va paraître dans The Volume édité par Julien, qui dit « Au fond, je pense, dit Little John, que c'est la plus grande difficulté à laquelle se confronte l'extérieur. » Donc, vous pouvez bien imaginer qu'ils ne se sont pas arrêtés là, ils n'ont pas baissé les bras, et ils ont décidé de répondre à cette objection. Et une des réponses que moi je trouve la plus convaincante, c'est celle qui en fait s'appuie sur une distinction entre une norme de justification et une norme d'excusabilité. Très brièvement dit, ce que dit l'externaliste, c'est, à l'internaliste, c'est au fond, seul l'individu dans le bon cas satisfait la norme de justification. Le genre de norme que satisfait les croyances, que satisfont les croyances de l'individu dans le mauvais cas, n'est pas la norme de justification, c'est la norme d'excusabilité. Plus précisément, Williamson formule cette idée de la manière suivante. A justified belief is a belief that complies with the primary truth relating norm of justification, that is a belief that satisfies some sort of ought or should. Donc l'individu dans le bon cas, au fond, qu'est-ce qu'il fait ? Il satisfait cette... Il est justifié, et qu'est-ce que ça veut dire être justifié ? C'est satisfaire une norme primaire qui relie la croyance à la vérité, si vous voulez, de manière brève, et cela signifie que cette croyance, elle satisfait some sort of ought or should. Elle satisfait une certaine obligation de croire, et ce n'est pas le cas de l'individu dans le mauvais cas. Après, il y a toute une explication de ce que cela signifie pour l'individu dans le mauvais cas d'être excusable, mais je mets ça de côté parce que même si c'est extrêmement intéressant, ce n'est pas tellement le point qui m'intéresse aujourd'hui. Ce que je voulais vous... Pourquoi est-ce que je vous ai présenté cette distinction qu'établit Williamson ? C'est parce que je voulais vous montrer qu'au fond, quand il parle de la justification, Williamson et les autres individus qui s'appuient sur la distinction de justification et excusabilité, ils disent bien que être justifié, c'est satisfaire une certaine obligation, certain ought or should. Ce n'est pas, comme l'a prétendu Alston, être ni obligatoire ni interdit, c'est-à-dire optionnel. Et c'est en ce sens qu'en fait la réponse externaliste au nouveau problème du mal à génie est une réponse qui attribue une forme de normativité à la justification qui est de type non optionnel. Donc nous avons en fait maintenant sur le marché des conceptions de la normativité, au moins deux conceptions ont été défendues, l'optionnalité de William Alston et la non-optionnalité des externalistes. Ce que vous pourriez objecter, c'est qu'au fond, ces deux conceptions, l'optionnel et la non-optionnel, ne sont pas vraiment des conceptions incompatibles. Ce que l'on pourrait m'objecter, c'est de me dire, au fond, Alston, lui, il s'intéresse à la justification, au concept ordinaire de justification, alors que les externalistes, eux, s'intéressent à un concept technique ou non ordinaire de justification. Au fond, ils parlent de deux choses différentes. Donc, les deux choses peuvent être vraies. Il ne s'agit pas de conceptions incompatibles. J'aimerais rapidement répondre. C'est quelque chose qui a été dit beaucoup dans la film. Il y a tout un courant maintenant d'épistémologues qui pensent qu'il faut distinguer différents concepts de justification et qui s'appuient sur ce type de distinction pour éviter certaines difficultés. Et je pense que parfois c'est peut-être correct de faire ça, mais je pense que dans ce cas particulier, le cas du nouveau problème du mal à génie, on ne peut pas s'appuyer sur, si vous voulez, la mésentente. En fait, il ne s'agit pas d'un malentendu, en fait, en deux théories. Il parle au fond de la même chose. Et ce que j'aimerais juste vous dire rapidement, c'est pourquoi je pense qu'il parle vraiment de la même chose. Donc, ce que je vous ai mentionné tout à fait rapidement, c'est que je vous ai parlé du concept ordinaire de justification et je l'ai opposé au concept technique. Qu'est-ce que j'entends brièvement par concept ordinaire de justification ? Ce que j'entends par là, c'est simplement le concept qui est exprimé par le prédicat justifié quand ce prédicat est inclus dans des phrases du langage ordinaire, du type de celle que je vous ai présentée avant à titre d'exemple, la rupture des relations diplomatiques est justifiée dans ces circonstances. Typiquement, c'est une phrase qu'on pourrait lire dans le journal, c'est une phrase de langage ordinaire, et je pense que le prédicat justifié dans ce cas-là exprime quelque chose, et ce qu'il exprime, ce concept qu'il exprime, c'est ce que j'appelle le concept ordinaire de justification. Ce que je voulais également vous dire, c'est qu'il est vrai que dans de nombreux cas, les épistémologues ont fait appel à un concept non ordinaire de justification. Il y a bien des situations où ce n'est pas le concept exprimé par les phrases du langage ordinaire auxquelles les épistémologues pensent, mais un concept de type technique. C'est même le cas, par exemple, c'est même le cas dans la plupart des définitions de la connaissance en termes de croyance vraie justifiée. Quand on disait croyance vraie justifiée égale connaissance, très souvent, ce qu'on veut dire par justifiée, c'est pas quelque chose qui a un lien avec les phrases, la rupture des relations diplomatiques est justifiée. Ce qu'on veut dire, c'est juste la propriété, peu importe laquelle, qui ajoutée à la croyance vraie fait de la connaissance, peu importe par ailleurs l'emploi du terme justifié dans le langage ordinaire. Donc ça, c'est vrai dans beaucoup, beaucoup de cas. Donc je ne nie pas que les épistémologues font un usage technique fréquent du terme justifié. Ce que je veux dire ici, c'est que dans le cas précis du nouveau problème du malingénie, ce n'est pas le cas. Juste à titre de citation pour cette histoire de technicité, Bonjour le reconnaît lui-même. Il dit « The specifically epistemological notion of justification is to a significant extent a technical and philosophical notion, one that is not clearly and unquestionably present in common sense. » Donc pourquoi est-ce que je pense que les conceptions optionnelles et non optionnelles sont vraiment incompatibles? Donc très brièvement, si vous voulez, l'argument, très brièvement, en une seule phrase, c'est parce que les philosophes qui sont impliqués dans la discussion du nouveau problème du malingénie doivent partager au moins un concept minimal de ce dont ils sont en train de parler. Autrement, ils sont simplement en train de... Autrement, il s'agit d'un pur malentendu et ce n'est pas d'un intérêt crucial. Ils ne seraient pas en train de débattre de la même chose, donc quel serait l'intérêt? Donc, ils doivent avoir, en train de discuter d'un concept minimal, ils doivent partager un concept minimal de ce qu'est la justification, et par ailleurs, ce concept minimal est, d'après moi, le concept d'ordinaire. Dans plus de détails, l'argument est, c'est le suivant, c'est que, imaginez, donc vous avez un problème, la question de savoir si, rappelez-vous, l'individu dans le bon cas et le mauvais cas, les deux sont justifiés, version internaliste de la justification, ou, au camp opposé, seul l'individu dans le bon cas est justifié. Deux jugements différents à propos de la justification des croyances. Si il parle de deux choses complètement différentes, si au fond il ne partage pas un concept minimal de ce qu'est la justification, ce qui arrive dans ce cas, c'est que c'est simplement deux personnes qui parlent de choses totalement. Il s'agit simplement de deux groupes de philosophes qui parlent de choses totalement différentes. Ils sont en train, ils partagent rien, ils ne sont pas en train de discuter de la même chose, et du coup, il s'agit d'un simple malentendu entre deux groupes de philosophes qui, au fond, font leur recherche sur des objets différents. Donc, le présupposé, ça c'est pour la première prémisse. Donc, s'ils ne partageaient pas ce concept minimal, il s'agirait d'un pur malentendu. Le présupposé, c'est que dans ce problème, on a un vrai problème et qu'il ne s'agit pas d'un malentendu. Ça, c'est la deuxième prémisse. S'il ne s'agit pas d'un malentendu, il y a donc un concept minimal de la justification que ces deux camps opposés partagent. Et ce concept minimal, il est soit technique, soit ordinaire. Ça, c'est la troisième prémisse. Disjonction, soit technique, soit ordinaire. Quatrième prémisse, il ne s'agit pas d'un concept technique, ce concept minimal que ces deux camps partagent. Pourquoi? Parce que le concept technique classique, c'est celui qui dit... La connaissance est la croyance vraie justifiée, et par justifiée, on entend peu importe quoi, mais le truc qui est ajouté à la croyance vraie va faire la connaissance. Et cette technicité-là du concept de justification, c'est pas un concept technique que les défenseurs externalistes de la réponse que je vous ai présentée tout à l'heure peuvent accepter, parce que justement, ils estiment que la connaissance est première, il n'y a pas donc de définition de la connaissance en termes de justification, donc ils ne peuvent pas s'appuyer sur ce type de concept technique-là pour essayer d'expliquer leur différend avec le camp opposé. Donc du coup, le concept, s'il n'est pas technique, est ordinaire, et donc au fond, les deux camps en question, c'est la conclusion de l'argument, les deux camps en question sont bien en train de parler de la même chose, et cette chose qu'ils ont en commun, dont ils parlent ensemble, c'est le concept ordinaire de justification. Donc ça, c'était simplement un rapide aparté pour vous expliquer pourquoi est-ce que la conception optionnelle et non optionnelle sont vraiment des conceptions incompatibles, qu'il ne s'agit pas juste d'un malentendu entre deux camps de philosophe. Donc maintenant, je vais vous expliquer pourquoi je pense qu'en fait la conception williamsonienne de la normativité de la justification, c'est-à-dire la conception optionnelle, non optionnelle, pardon, est meilleure. Donc souvenez-vous, comment est-ce que William Alston défend sa propre conception, celle qui est optionnelle? Il s'appuie sur ce que j'ai appelé l'intuition sémantique. Et il dit, au fond, quand on dit d'une action comme la rupture des relations diplomatiques qu'elle est justifiée, nous ne disons pas de cette action qu'elle est obligatoire, nous disons que cette action est permise. Cela semble assez évident que nous ne disons pas de cette action qu'elle est obligatoire. Et pourtant, en fait, ce que je voudrais vous montrer maintenant, c'est que quand on dit oui, c'est vrai aussi que quand on dit d'une action qu'elle est justifiée, on veut plutôt dire qu'elle est permise, mais le mot permis, en fait, est caractérisé par une ambiguïté qui fait qu'elle ne suffit pas, en fait, cette intuition sémantique, à défendre la conception optionnelle. Prenez ces deux exemples. Dans l'exemple numéro 1, il s'agit de Sam qui se promène le long du lac Léman, va-t-on dire, et il voit une pancarte sur laquelle il est écrit « Il est interdit de nager ou de se baigner ici, mais cela est autorisé à 200 mètres. » Cela est permis à 200 mètres. Ça, c'est le premier exemple de l'usage du terme permis. J'essaie de vous faire sentir du type d'ambiguïté que j'ai en tête à propos de la signification du terme permis. Donc, ça, c'est un premier usage du terme permis. Maintenant, examinons le deuxième cas. Il s'agit du cas dans lequel Carla apprend que son fils, en fait, a chapardé une paire de chaussures de course dans un magasin près de chez elle. Quand elle apprend ça, elle lui dit « Il faut que tu ramènes ça immédiatement à la maison. » Et que tu aies été excusée auprès du vendeur. Donc elle sort de chez elle avec la paire de chaussures, le fils à la main, et à ce moment-là sort de l'appartement d'à côté la voisine qui lui dit « Mais qu'est-ce que vous allez faire avec cette paire de chaussures à la main ?» Et Carla est très mal à l'aise parce qu'elle sait que sa voisine est une pipelette incroyable, donc elle ne veut pas lui dire que son fils a volé les chaussures en question. Donc elle lui ment et lui dit « Il faut que mon fils aille très rapidement chez le dentiste, il a une rage de dents. » Et là, Carla, qui est quelqu'un de normalement de très vertueux, s'adresse à son ami et le lendemain, elle lui dit « Oh, j'ai vraiment honte d'avoir menti à la voisine. » Et là, l'ami en question lui dit « Non, mais ne t'inquiète pas, Carla, dans ces circonstances, il est vraiment permis de mentir. » Ça, c'est un deuxième usage du terme permis, assez, il semble, normal, qui, au fond, et c'est ce que j'essaie de dire, c'est un usage du terme permis, mais dans le premier et dans le deuxième cas, permis ne signifie pas la même chose. Dans le premier cas, quand on dit « il est permis de se baigner ici », « il est permis de se baigner à 200 mètres, mais il est interdit ici », ce qu'on veut dire, c'est « à 200 mètres, il est ni obligatoire, ni interdit de se baigner ». Ce qu'on veut dire, c'est « à 200 mètres, la baignade est optionnelle ». Donc le premier usage du terme « permis » est bien l'usage que Alston a en tête quand il parle de permission. Mais le deuxième usage du terme permis, lorsque l'ami de Carla dit à Carla « Ne t'inquiète pas Carla, dans ces circonstances il est permis de mentir », ce que veut dire cet ami dans ces cas-là, c'est « Dans ces circonstances, mentir est un moindre mal ». Il n'est pas en train de lui dire « Tu aurais pu faire ce que tu voulais, mentir, ne pas mentir, tout ça est absolument à égalité ». Ce n'est pas optionnel de mentir ou de ne pas mentir. Il n'est pas en train de dire que mentir n'est pas en soi mauvais. Il est en train de dire, dans ce cas-là, mentir, c'est un moindre mal. Donc, permis, si vous voulez, a au moins ces deux significations. Peut-être plein d'autres, peu importe. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on s'appuie sur l'intuition sémantique, comme le fait Alston, quand on dit être justifié, c'est être permis, ensuite, il faut encore dire qu'est-ce que l'on veut dire par permis. Et si on y réfléchit, au fond, rien que du fait que permis est caractérisé par ce type d'ambiguïté, l'intuition sémantique ne permet pas de défendre la conception optionnelle. Ça, c'est le premier résultat que j'aimerais défendre. C'est-à-dire que cette intuition sémantique, à cause de l'ambiguïté du terme permis, est de toute façon pas suffisante pour défendre la conception optionnelle. Et quand on y regarde de plus près, en fait, l'intuition sémantique, elle semble plutôt défendre l'idée que être justifié, c'est être permis au sens être le moindre mal. Pourquoi je pense ça ? Déjà parce que peut-être que vous aurez aussi l'intuition que quand on dit de quelque chose qui est justifié, au fond, ce qu'on est en train de dire, c'est un moindre mal. Rompre les relations diplomatiques est justifié, c'est dire rompre les relations diplomatiques. Évidemment, ce n'est pas idéal, mais c'est le moindre mal dans ces circonstances. Donc ça, c'est juste pour faire appel à... Ça, c'est aussi faire appel à une intuition sémantique. différente. Ce que j'aimerais ajouter à cela, c'est que être justifié dans le droit pénal américain, et je dois vous dire que je n'ai pas encore vérifié en ce qui concerne le droit suisse et le droit français, mais en tout cas dans le droit pénal américain, être justifié signifie exactement ça, signifie être le moindre mal. Typiquement dans le Model Penal Code, voilà ce qui est dit à propos d'une action qui est justifiable. A conduct which the actor believes to be necessary to avoid harm or evil to himself or to another is justifiable provided that the harm or evil sought to be avoided by such conduct is greater than that sought to be prevented by the law defining the offense charged. Qu'est-ce qu'on dit là? Tout simplement, c'est justifiable quand la personne, l'intention de la personne quand il a accompli l'action qui violait la loi était telle que ce qu'il essayait d'éviter aurait été plus grave que ce que la loi essaye d'éviter. Donc, c'était le nouveau, le moindre mal. Donc, j'essaye de juste faire le point sur ce que je vous ai dit jusque-là. Ce que j'ai essayé de défendre, c'est tout d'abord l'idée que l'intuition sémantique sur laquelle s'appuie Alston n'est pas suffisante pour défendre la conception optionnelle, et la raison pour laquelle je pense qu'elle ne l'est pas, c'est parce que cette idée que être justifié, c'est être permis, compte tenu de l'ambiguïté du terme permis, on ne peut pas s'appuyer là-dessus pour en arriver à dire qu'au fond, être justifié, c'est être optionnel. Après, j'ai ajouté qu'au fond, il semblerait que si être justifié, c'est être permis, c'est être permis au sens être le moindre mal. Et pour cela, on a comme raison de penser que c'est le cas, on a d'abord nos intuitions, nos propres intuitions sémantiques. Et on a également, comme deuxième raison de penser que c'est le cas, l'usage juridique ou l'usage dans la philosophie du froid de ce que c'est qu'être justifié. Donc ça, c'est ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est dire au fond, voilà ce que c'est qu'être justifié. Être justifié, c'est être le moindre mal. Mais souvenez-vous de la conception que j'essaie de défendre, de la normativité qui est celle de Williamson. La conception de la normativité de Williamson dit, de la justification de Williamson dit, être justifié, c'est satisfaire une norme. C'est comply with the norm. C'est ça qu'être justifié. Donc en fait, si vous voulez, je suis arrivée au point où j'arrive à vous dire que être justifié, c'est être le moindre mal, mais et d'après Williamson, être justifié, c'est satisfaire une norme, ou être, satisfaire un devoir, some sort of ought or should, il dit. Mais au fond, il y a encore une connexion entre être justifié, être le moindre mal, et être justifié, être obligatoire. Je n'ai pas encore fait le lien entre ces deux principes. Donc, ce que je dois encore vous montrer, c'est si, en fait, être le moindre mal, c'est satisfaire une norme ou pas. Et ce que je vais essayer de vous montrer maintenant, en appuyant sur William Ross, c'est qu'au fond, oui, pour une action, lorsqu'une action est le moindre mal, elle est en fait obligatoire, elle est bien celle qui satisfait un devoir. Donc, elle comply with the norm, si vous voulez. Donc, rapidement, pour Ross, les actions qui constituent le moindre mal sont ce qu'il appelle des actions correctes. Donc là, vous voyez qu'au fond, on est descendu, vous vous souvenez des trois catégories de concepts normatifs. Dans la première catégorie, il y avait deux sous-catégories, une qui rassemblait l'obligatoire et l'interdit. Et ensuite, je vous ai dit, il y en a une, parfois qu'on subdivise, mais que parfois on rassemble dans la même sous-catégorie, qui rassemble le concept de correct et incorrect. Donc pour Ross, les actions qui constituent le moindre mal sont les actions correctes, right. Et par ailleurs, Ross nous dit explicitement dans son ouvrage The Right and the Good que les actions correctes sont les actions qui doivent être accomplies. Il ne donne pas de raison de penser, il n'explicite pas pourquoi est-ce qu'il identifie le fait d'être correct au fait de devoir être accompli. J'essaie de réfléchir à... Il ne donne pas d'explication, je me suis dit ça doit être évident, autrement il nous l'aurait expliqué. Donc j'ai tenté de reformuler en fait les raisons qui permettent à Ross d'identifier les actions correctes à des actions qui doivent être accomplies. Et je pense qu'en fait l'argument sous-jacent est le suivant. Donc une première chose, la prémisse 1 nous dit simplement que les actions qui sont caractérisées par une normativité déontique, elles sont soit obligatoires, soit interdites, soit optionnelles. C'est les trois possibilités et elles sont exclusives. Une action optionnelle, une option simplement qui est ni interdite ni obligatoire. C'est ce que je vous ai déjà dit tout à l'heure. Ça, c'est la deuxième prémisse qui réexplicite simplement la première, au fond. Donc, au fond, après, si une action optionnelle est ni interdite ni obligatoire, chaque fois qu'une action sera optionnelle, le fait de ne pas accomplir cette action sera également optionnel. Parce que si le fait de ne pas accomplir cette action était obligatoire ou interdite, alors le fait de l'accomplir ne pourrait pas être optionnel. Ce serait la contradictoire. Donc chaque fois qu'une action est optionnelle, le fait de ne pas accomplir cette action est optionnel. En termes de correction de l'action, si vous voulez, ce que ça veut dire, c'est chaque fois qu'une action est correcte, le fait de ne pas accomplir cette action équivaut au fait de l'accomplir en termes de sa correction. Elles sont, si vous voulez, c'est exactement ça que ça signifie pour une action d'être optionnelle. Nager à 200 mètres, c'est ni obligatoire ni interdit, c'est-à-dire que c'est pas particulièrement bien ni particulièrement pas bien. C'est juste une chose que vous avez le droit de faire si vous le souhaitez. Donc, ça c'est la quatrième prémisse. Donc chaque action optionnelle équivaut le fait de ne pas accomplir cette action en termes de sa correction. La cinquième prémisse réexplicite simplement ça, c'est qu'au fond, chaque fois qu'une action sera optionnelle, elle ne va pas être. Ça, il ne s'agira pas de l'action qui a le plus haut degré de rightness. Parce que, évidemment, il y a le fait de ne pas faire cette action qui aura le même degré de rightness. Donc, elle n'est jamais l'action qui est la meilleure, toute chose considérée. Puisqu'il y a une autre action qui est le fait de ne pas le faire, qui sera de toute façon égalitaire à elle, égale à elle. Donc, chaque fois qu'une action est optionnelle, elle n'est pas correcte du point de vue de toutes les circonstances, quand on considère toutes les circonstances. Donc, ce que l'on sait par ailleurs, c'est qu'une action, ça c'est une évidence, c'est la prémisse 7, toutes les actions qui sont correctes, toutes choses considérées, ne sont pas interdites. Donc, au fond, nous avons la situation selon laquelle une action qui est correcte, toutes choses considérées, elle ne peut pas être optionnelle, pour la raison que j'ai expliquée au début. Une action qui est correcte, toutes choses considérées, ça c'est l'évidence, elle ne peut pas être interdite. Donc une action qui est correcte, all things considered right, comme dirait Ross, elle n'est ni optionnelle, ni interdite. Et il ne reste plus qu'une troisième option, car il y a la trilogie, c'est interdit, obligatoire ou optionnel, interdit, optionnel ou obligatoire. Donc une action qui est all things considered right, elle est forcément obligatoire. Donc la raison pour laquelle Ross identifie les actions qui sont toutes choses considérées correctes à des actions qui doivent être accomplies, elle est résumée par cet argument, c'est que c'est simplement une nécessité liée au fait qu'il n'y a que trois options. Une action peut être soit optionnelle, soit obligatoire, soit interdite. Une action all things considered right, toutes choses considérées correctes, ne peut être ni interdite ni optionnelle, c'est ce que j'essaie de montrer dans cet argument, donc elle est nécessairement obligatoire. Donc si je résume en fait les conclusions auxquelles je suis arrivée dans cet exposé, ce que je voulais vous dire en premier, une des conclusions importantes que j'aimerais défendre même un peu plus loin dans mes travaux, c'est de dire qu'au fond, le concept ordinaire de justification, l'intuition sémantique ordinaire sur laquelle s'appuie Aristote est en fait une intuition qui nous permet de défendre la thèse sur laquelle la justification, être justifié pour une croyance ou une action, c'est être le moindre mal. Et une action ou une croyance qui est le moindre mal, c'est-à-dire qui est caractérisée par la propriété ordinaire de la justification, en fait, est une action qui doit être accomplie ou permise, comme la conception non optionnelle de la justification le défend. C'est-à-dire, si on s'appuie sur l'intuition sémantique, au fond, contrairement à peut-être ce que l'on pourrait attendre, l'intuition sémantique du langage ordinaire, au fond, nous permet de défendre la vision williamsonienne de ce qu'est la normativité de la justification. L'intuition sémantique nous permet de défendre l'idée que la justification est être justifié pour une action c'est être une action obligatoire et non pas juste une action optionnelle. Je vous remercie pour votre attention.
On va tout de suite écouter la réponse de Paul, que j'espère relativement courte, pour prendre quelques questions dans la salle.
Bien, donc quelques... Je vais faire quelques commentaires rapides et poser deux questions, essentiellement. Donc, si je résume le cœur de l'exposé d'Anne Mélan, la notion de justification ordinaire nous invite à distinguer deux dimensions déontiques. L'une est que est justifié ce qui serait optionnel, et l'autre est justifié ce qui constitue un moindre mal. Le but de la distinction est de suggérer que la seconde conception de la justification, la conception en termes de moindre mal, donne raison en fait à la théorie externaliste, knowledge first de la justification. Pourquoi ? Parce que la conception en question donc, nous dit que ce qui est justifié n'est pas optionnel mais est impératif. Deuxièmement, et c'est la thèse d'Anne Mélan, l'action qui constitue un moindre mal est non pas optionnelle mais impérative ou obligatoire, comme l'a dit Anne. Donc sa conclusion est qu'une croyance justifiée n'est pas une croyance optionnelle mais bien une croyance impérative. Je la cite, « An action or belief that is the lesser evil is in fact an action or belief that ought to be performed or held. » Elle nous dit bien, par ailleurs, que « ought to be performed » veut dire « obligatoire ». Alors, sur cette base, je pose deux questions. Ma première est une question générale, presque de clarification, hein, qui consiste à demander comment exactement la qualification « justifiée », je le prendrai au sens faible, hein, « implique » qui constitue un moindre mal, et non pas « est exactement ce qui constitue un moindre mal ». Comment cette qualification répond-elle exactement à l'objection faite à l'externalisme, celle que considère Little John, d'après laquelle les bons cas et les mauvais cas seraient également justifiés ? Autrement dit, quelle est la pertinence exactement de la conception en question pour répondre à ce que Little John présente comme donc, une objection sérieuse à l'externalisme ? Ma deuxième, sont donc les bons cas pour lesquels la croyance est justifiée dans ce sens, ou les mauvais cas. Ma compréhension est que ce sont les mauvais cas seulement, puisqu'ils sont présentés par Williamson lui-même comme excusables. Ma deuxième question porte sur l'exemple qui est donné à l'appui de l'idée que serait justifié ce qui constitue le moindre mal. Le moindre mal est-il réellement impératif plutôt qu'optionnel ? Donc je voudrais ici proposer une objection. Mon objection est qu'il manque une distinction entre l'obligatoire et l'optionnel pour rendre compte de cet exemple, en fait. Donc l'exemple était le suivant, hein, tandis que Carla se sent coupable de son mensonge, son ami Dan lui dit « Ne t'en fais pas, Carla, il est permis de mentir dans ces circonstances. » Et je me suis demandé ce que voulait dire exactement Dan dans cet exemple. Je comprends donc la phrase comme signifiant « ne t'en fais pas, car là, il est excusable de mentir dans ces circonstances. » Ou peut-être, et je pense que c'est le sens que Anne Mélan a en tête, « ne t'en fais pas, car là, il est préférable de mentir dans ces circonstances. » Mais néanmoins, je n'irai pas jusqu'à penser que Dan voulait dire « ne t'en fais pas, car là, il est impératif de mentir dans ces circonstances. » Ce qui semble, en regard du scénario, beaucoup trop fort, puisqu'après tout, Carla peut encore choisir de ne pas mentir. Donc ma question, sachant que Carla aurait pu décider de rapporter les chaussures, etc., de dire la vérité sur son fils, ce qui est préférable, donc du point de vue du bien-être de Carla, n'est pas pour autant impératif. Donc la distinction de ce point de vue manque un niveau entre ce qui est optionnel et ce qui est obligatoire. Pour le redire, hein, préférable n'implique pas obligatoire. Certes, préférable implique une dimension normative absente dans optionnel, au sens où optionnel était défini par Anne Mélan. Mais cela n'annule pas donc le fait que ce qui est préférable puisse être optionnel. Voilà ma question. Merci beaucoup.
Merci. En ce qui concerne ta première question, comment est-ce que finalement la distinction, quoi, le genre de réflexion auquel je me suis adonnée dans cet article, être justifié, c'est être le moindre mal, comment est-ce qu'on peut le réemployer, le réappliquer en fait à la, au cas de, du bon et du mauvais cas. Je pense que je pense qu'en tout cas, ce qui est certain, c'est que dans le mauvais cas, on n'a pas affaire à une croyance qui est le moindre mal. Ça, parce que le moindre mal, ça voudrait dire, au fond, c'est justement pas une question d'excuse. L'excusable, dans le mauvais cas, on voit bien en quoi la personne est excusable, parce qu'au fond, elle avait toutes ses apparences, elle est arrivée à une croyance fausse, mais sur la base de ce qu'elle avait comme apparence, elle ne peut pas faire mieux, si on veut, pour le dire de manière simple. Mais il s'agit en tout cas pas d'une croyance qui est le moindre mal, parce que c'est une croyance qui est fausse et qui est basée sur des apparences qui sont trompeuses. Donc je pense que cette qualité normative-là, qui est ce que c'est qu'être le moindre mal, même au sens du droit, elle n'est pas instanciée par la croyance du mauvais cas. Ça, je crois que ce n'est pas tellement une difficulté, et j'arrive assez, en fait, à... Et c'est parce que c'est très différent d'être excusable et d'être le moindre mal. L'excusabilité, c'est une question de qu'est-ce que j'aurais pu faire pour ne pas en arriver là. Ça, c'est une question de... Ça, c'est la question de, au fond, je ne pouvais pas faire autrement que de croire, d'avoir des croyances fausses, moi qui suis l'individu dans le mauvais cas. Donc l'excusabilité, comme l'a dit Austin, c'est vraiment... C'est dépendant d'un paramètre qui a un trait à la responsabilité. Le moindre mal, c'est une qualité externe, en effet, objective de la croyance en elle-même. Là où j'ai plus de difficultés pour ce qui concerne la première question, c'est est-ce que dans le bon cas, donc ça, j'ai moins de difficultés avec cette question, mais est-ce que dans le bon cas, on a vraiment affaire à une croyance que le moindre mal, ou est-ce que ce n'est pas juste une bonne croyance? Et là, c'est vrai que quand je réapplique ma distinction à cette histoire-là, je trouve ça plus problématique. Il faut que j'y réfléchisse. Mais c'était ça que je voulais répondre d'abord à ta toute première question. Ensuite, en ce qui concerne la deuxième question, au fond, une des difficultés que j'ai, que tu soulèves, c'est que moi aussi, j'aurais tendance à dire, au fond, il y a l'optionnel, l'obligatoire, l'interdit, et le moindre mal, ça me coûte de dire que c'est l'obligatoire. Ça me coûte parce que je trouve aussi ça pas très intuitif, en effet. En même temps, quand j'ai lu Ross, je me suis dit, ah, mais pourquoi est-ce que Ross dit ça? Qui est un éthicien, qui manipule les concepts normatifs bien mieux que je ne les manipule. Et après, j'ai établi cet argument. Et dans l'argument, je ne suis pas sûre de voir la faille exactement. L'argument qui aboutit à la conclusion selon laquelle la croyance, les croyances qui sont toutes choses considérées, c'est-à-dire bonnes, c'est-à-dire le moins normal, sont les croyances ou les actions obligatoires. Donc, vu que je ne vois pas la faille, je suis encore portée à croire que cette conclusion est correcte, même si, comme toi, j'ai aussi intuitivement l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais je n'ai pas encore compris où était le problème qui fait que j'arriverai à mettre toutes les pièces ensemble et que j'aurai à la fois le moyen de respecter mon intuition et à la fois le moyen de comprendre pourquoi Ross dit ça et pourquoi l'argument a l'air de fonctionner. Et là, si tu peux m'éclairer ensuite, même si on peut en discuter tout à l'heure, je serais vraiment contente. Parce que c'est un classique, hein, la trilogie optionnelle, obligatoire, interdit, c'est pas quelque chose que j'invente, ça fait partie de la manière dont on divise les concepts déontiques de manière assez traditionnelle, et c'est vrai que c'est pas quelque chose que je veux, c'est la première prémisse de l'argument en question, et c'est pas quelque chose que je veux m'autoriser à nier, quoi. Voilà, ça sera pour mes deux réponses. Merci beaucoup pour les questions.